ici à Kinshasa pour prendre deux questions, une à gauche, une à droite. De préférence, nous allons ouvrir cette phase des questions et réponses par une dame. Je suggère une dame, sinon nous prenons tout de suite. Oui, passez le micro.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela. Un nouveau bras de fer s'installe entre le gouvernement de Kinshasa et la MONUSCO à propos des attitudes de l'opposition la semaine passée. En attendant que l'apaisement revienne, quel justificatif apporte-vous face aux accusations lancées contre vous en favorisant le chaos en RDC?
Oui, merci pour cette question qui est très intéressante dans la mesure où je suis à peu près sûr d'une chose, c'est qu'au fil des jours, au fil des semaines, nous échangeons ici et ailleurs par voie d'interview sur la situation en RDC. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que la MONUSCO veut provoquer le chaos en République démocratique du Congo. D'abord, premièrement, nous considérons que nous avons un partenariat très riche, un partenariat très fructueux avec les autorités congolaises, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous formulons aussi nos préoccupations, nous formulons aussi nos points de vue pour que les choses puissent entrer dans l'ordre. Mais vous savez, il est tout à fait normal qu'entre des partenaires aussi, qu'il y ait des moments de friction. Je pense que ceci traduit de manière naturelle le dynamisme des relations qu'entretiennent ces deux entités. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, je pense aussi que tout le monde est libre de formuler ses pensées, de formuler ses critiques. Nous prenons bonne note de tout ce qui a été dit, mais je veux encore une fois réitérer que cette situation ne peut pas être source d'une autre situation conflictuelle entre les autorités congolaises et la MONUSCO, parce que ce partenariat, il est réel, il est vrai et il perdure. Merci. Donc, une deuxième question ici. Oui, passez le micro, s'il vous plaît.
C'est M. Papi Okito, éditeur du journal Écho d'opinion. M. Félix Pais, peut-être vous serez d'accord avec moi que le dialogue de l'EIA a été contesté par plus d'un Congolais et la MONUSCO était toujours derrière ce dialogue. Hier, c'était déjà le 21 jours où le Premier ministre devait être connu. Mais aujourd'hui, ce délai est dépassé. Et le Congolais continue toujours d'accuser la MONUSCO de soutenir toujours ce dialogue. Et jusqu'où ira ce glissement qui continue toujours à être même au niveau du dialogue? Merci.
Oui, merci. Il n'y a pas de glissement au niveau du dialogue. Je pense que le dialogue a été conclu à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation de M. Edem Kodjo. Il est évident qu'une partie a pris part au dialogue et a signé ce document. Il est aussi vrai qu'une autre partie n'a pas signé le document. Et je pense que dans les dispositions contenues dans cet accord qui a été signé par les parties prenantes au dialogue, il est clairement indiqué aussi que la porte était ouverte pour permettre, en cours de route, d'avoir une inclusion, une inclusivité plus large, si ceci était possible. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je pense que les bons offices qui sont initiés par la CENCO, la Conférence épiscopale nationale congolaise, est une très bonne chose et que la MONUSCO appuie cette initiative-là. Ça, c'est la phase après le dialogue. Avant le dialogue, nous avons encouragé tous les Congolais à venir prendre part à ces discussions-là afin de mettre sur la table les points de divergence qui doivent être discutés en vue de trouver des solutions qui soient pérennes ou des solutions à la limite existentielle pour le peuple congolais. Ceci aussi, nous l'avons encouragé. Et nous avons aussi poursuivi le soutien aux facilitateurs, mais aussi le soutien à toutes les actions qui ont été prises. Maintenant, vous parlez de délai. Ce délai, c'est vous qui pouvez me le définir avec beaucoup plus de précision parce que vous dites que le délai pour la nomination d'un Premier ministre est dépassé. Je pense que cette question, vous devez la référer à ceux à qui elle devrait être adressée. La MONUSCO appuiera, continue d'appuyer le processus. Le délai par rapport à quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est le délai par rapport à la signature à la Cité de l'Union africaine de cet accord? Est-ce que c'est le délai à partir du moment où cet accord a été présenté au président de la République? Mais ça, c'est une question encore technique qu'il vous faudra vous-même poser à ceux qui ont pris part au dialogue, ou en tout cas, ceux qui ont assuré la co-médiation de ce dialogue, pas la MONUSCO. La MONUSCO poursuivra, bien entendu, sur la base de ce qui a été engrangé, parce que nous n'avons jamais dit que le dialogue, etc. Nous avons dit oui, il y a un point de départ. À partir de ce qui a été engrangé, continuons à bâtir, continuons à pousser à ce que les Congolais puissent se réunir ou en tout cas se retrouver autour de certains objectifs qui sont fondamentaux pour le peuple congolais, parce qu'il faut retenir une chose, seul l'intérêt du peuple congolais doit prévaloir ici, pas d'intérêt partisan, pas d'intérêt particulier. Donc voilà ce que je pouvais dire à votre question. Nous partons tout de suite à Goma pour prendre deux questions auprès de nos amis qui doivent s'impatienter. Goma, vous avez deux questions. Le micro est à vous.
Voilà, je vois Charlie Katerika. Oui, Charlie, après on revient.
Nicole,
je peux commencer? Oui, comment,
allez-y. Oui, c'est Charlie Kassareka pour la Voix de l'Amérique. On aimerait bien avoir des précisions sur l'incident d'hier, parce que vous parlez seulement d'une fillette morte, alors que sur place, on a eu des témoins, et après notre arrivée sur place, on nous a dit qu'il y aurait des casquettes qui seraient aussi morts. À la suite de cette grenade qui explosait, et certains témoins ne parlent même pas d'une bombe artisanale, qu'il y aurait un sida d'un casque bleu qui portait la grenade sur la ceinture et qui est mort, et que le sang était même sur place à l'endroit où il y a eu l'incident.
Oui.
Vous pouvez vous cacher les nombres de casques bleus, les chiffres.
Oui. Mon colonel,
l'explosion qui a eu lieu à près de la COBND à Goma, à 1,6 km, lors d'une séance de sport, lors d'une course matinale de la part du bataillon indien. Nous avons sécurisé les lieux immédiatement après l'explosion. Nous avons envoyé une équipe d'experts en explosion d'exploiter le site pour confirmer la nature de l'explosion et confirmer toute évidence pour s'assurer qu'on avait l'information adéquate. Je peux vous confirmer ici, ce matin, que c'est bien un engin explosif artisanal, okay, qui a été utilisé pour causer la blessure de 32 soldats qui sont maintenant à l'hôpital à Goma, dont 14 au niveau 3 et 18 au niveau 1. Nous avons les évidences clair qu'un engin explosif artisanal initié par un fil électrique a été utilisé. Nous avons trouvé le matériel nécessaire sur la scène qui nous indique clairement que c'était un engin explosif artisanal et non une grenade qui a causé la blessure à 32 soldats. Donc, nous avons fait une enquête préliminaire hier avec les experts en explosion sur le site, et maintenant, aujourd'hui, il y a une autre équipe du côté forensique qui sont sur place, non seulement au niveau de la mission, mais aussi des spécialistes de Kinshasa, congolais, qui sont spécialistes à la forensique, qui sont maintenant sur les lieux et qui enquêtent d'une façon conjointe avec nos experts pour trouver encore d'autres évidences pour confirmer à l'explosion d'un engin explosif. Le gouverneur et le maire de Goma ont fait une visite sur le site hier, comme vous savez très bien, et sont en accord avec l'évaluation qu'on a faite hier, qui était préliminaire, que c'était un engin explosif. Donc, j'aimerais corriger tout de suite le fait ou l'option de la grenade, qui est tout à fait erronée. Et nous pouvons confirmer aujourd'hui et mettre ça au clair que c'est un engin explosif artisanal qui a été utilisé.
Par rapport au nombre de morts, des casques bleus aussi.
Oui, encore une fois, nous avons, comme mentionné, 32 blessés au niveau des casques bleus et un blessé, un enfant d'environ de 8 ans qui a été tué sur le champ à cause de l'explosion, à cause qu'il courait à côté du groupe sur le chemin où que l'explosion a eu lieu. Donc, principalement, c'est l'enfant qui a eu l'explosion qui a sauté en même temps que le groupe passait.
Merci, colonel Pierre Hué. Je voudrais tout simplement rappeler à mon collègue que certes, nous avons aussi été mis au courant de beaucoup de rumeurs qui circulent autour de cet incident-là, mais je pense que comme le colonel Pierre Huet l'a si bien décrit, les choses se sont passées d'une certaine façon. Une équipe d'investigation pluridisciplinaire a été déployée sur le terrain et nous poursuivons notre coopération avec aussi les autorités congolaises. Et il a dit, des renforts ont été déployés à partir de Kinshasa, aussi bien par le gouvernement congolais que par la MONUSCO. En fait, ce sont des experts qui vont se rendre sur les lieux de l'incident pour déterminer avec précision quelles sont les circonstances dans lesquelles cet incident a eu lieu. Mais le colonel l'a très bien dit, il s'agit bien d'un engin explosif qui a été placé là pour exploser à un moment ou à un autre, mais la suite des enquêtes déterminera avec plus de précision ce qui s'est réellement passé. Je reviens ici à Kinshasa pour deux questions, mais avant cela, je voudrais rappeler à tous les collègues que au cours de cette conférence de presse, les questions peuvent être formulées et adressées directement à quelqu'un, mais j'assure la direction de cette conférence de presse, il faudra que les gens attendent que je leur donne le micro pour qu'ils puissent répondre aux questions. Ceci étant dit, je reviens ici à Kinshasa pour prendre deux questions, une à gauche, oui.
Merci Félix. Théodore Ngandou pour les comptes de Télé 7. Félix, je reviens sur le meeting du rassemblement le 5 novembre dernier, le meeting qui a été interdit par l'autorité provinciale. Et le public quinois, ce jour-là, n'a pas eu droit à l'information, notamment précisément à travers Radio Okapi, dont le signal a été brouillé. Quelles sont, selon la MONUSCO, les vraies raisons de ces brouillages de signal de Radio Okapi? Et qu'est-ce qui peut être fait pour que cela n'arrive plus à la prochaine occasion?
Oui, d'abord, il faut reconnaître que nous déplorons tout aussi, autant que vous, nous déplorons justement la suspension des émissions de Radio Okapi suite à un brouillage. Mais je voudrais aussi préciser que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse officielle de la part des autorités concernant ce brouillage. Mais je le dis, c'est une situation qui est non seulement inquiétante mais préoccupante, parce que ceci, et je le dis surtout au nom de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Mais une chose aussi est sûre, c'est que Radio Okapi n'appartient plus aux Nations Unies. C'est vrai que c'est une radio des Nations Unies, c'est vrai que la radio est mise en œuvre par des Congolais professionnels. Et malheureusement, nous avons assisté à cette situation-là pendant le week-end. Nous rappelons tout simplement certaines dispositions qui sont fondamentales. C'est des dispositions qui sont ancrées dans toutes les constitutions. Il s'agit de la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté, etc. Maintenant, que l'autorité provinciale prenne une décision, je pense aussi que Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Maman Sambo Sidikou, a eu au cours de son allocution prononcée le 4 novembre, ça veut dire 24 heures avant la tenue de ce meeting qui était prévu aux environs du stade des Martyrs. Il a encore une fois rappelé les responsabilités de tout un chacun. Il a encore une fois interpellé tout un chacun. Ça veut dire aussi bien ceux qui ont organisé cette manifestation, mais aussi les forces de l'ordre qui sont censées accompagner cette manifestation si toutefois elle avait été autorisée. Il a rappelé, martelé encore une fois que les lois de la République doivent être respectées par tout un chacun. Ça commence par là aussi. Donc je pense très bien que au-delà de tout ceci, nous avons jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'explication officielle de la part du gouvernement. Mais je l'ai rappelé, la radio Okapi n'est plus la radio de la MONUSCO, c'est la radio des Congolais. Pensons un moment, pendant 24 heures, 1 heure, 48 heures, que le Congolais qui est là-bas au fond, dans le Rutshuru, qui est dans le Congo profond, ne puisse pas avoir droit à l'information. Je pense que ce sont des questions existentielles qu'il faudra que vous-même vous vous posez en tant que journaliste et que vous puissiez interpeller ceux qui bloquent justement l'expression plurielle, etc. Donc je pense que vous avez aussi un rôle à jouer dans ça, mais nous disons tout simplement que ceci ne nous permet pas de continuer à entretenir et à maintenir le contact avec les autorités. Dans cette dynamique-là, depuis quelque temps, nous sommes sont en train de discuter avec les autorités, qui ont aussi montré une forme d'ouverture. Et c'est pour cela que Radio Okapi a été actif depuis hier à partir de 22h. Les émissions sont suivies, vous pourrez tous en profiter. Et j'espère que l'inauguration aussi du studio de Béni contribuera justement à libérer un espace d'expression beaucoup plus pluriel ici en République démocratique du Congo. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je prends une deuxième question. Mais je rappelle que Florence Marshall est à mes côtés. En passant.
Oui, Jean-Noël Bamoisé, SABC Channel Africa et le journal Africa Connection. Monsieur Félix, nous avons appris qu'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue ici ce vendredi. Voudriez-vous nous en dire plus en insistant surtout sur l'objectif de la mission?
Oui, merci. Donc, il faut d'abord, je pense, recadrer cette visite-là. Elle s'inscrit dans un cadre normal des activités du Conseil de sécurité. Depuis que personnellement je suis là, je pense que c'est la troisième ou la quatrième visite des membres du Conseil de sécurité. Qui seront là, comme vous l'avez tantôt indiqué, à partir du vendredi. Ils viennent pour une visite en RDC. Ils viennent rencontrer les autorités de la République démocratique du Congo, à part toutes les institutions, en fait, le président de la République, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et certaines autres autorités congolaises ici à Kinshasa. Et au cours de cette visite, d'ailleurs, sans pour autant dévoiler en amont le programme qui sera effectué, il y aura à la fin de cette première journée, donc ça veut dire la journée du samedi, il y aura une conférence de presse qui sera animée à l'hôtel Kempis, comme nous l'avions fait lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Et donc, à l'issue de cette journée du samedi, les membres du Conseil de sécurité se rendront à Beni via Goma afin d'aller aussi de visu constater ce qui se passe là-bas, échanger avec les différents interlocuteurs, notamment les autorités provinciales, mais aussi les autorités de la MONUSCO. Et donc, et c'est suite à cela que cette visite se clôturera à partir de Beni et ils auront à s'envoler pour d'autres destinations. Donc voilà, de manière très globale, la quintessence de ce programme-là concernant la visite des membres du Conseil de sécurité. Maintenant, les sujets qui seront abordés, ça je pense que je le laisse à la discrétion des membres du Conseil de sécurité, parce que je ne suis pas dans le secret des saints, mais je pense que beaucoup de sujets vont être abordés, notamment la sécurité, notamment la situation politique. Mais encore, comme Florence vient de me l'indiquer aussi, ils rencontreront aussi bien les partis politiques de l'opposition, les membres de la société civile et certaines composantes dynamiques de la société congolaise de manière très générale. Donc, merci. Je repars tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions, nous avons le temps, mais comment aller un peu plus vite?
Oui. Merci. Moi, c'est Jérémy de la radio RTCT. Je reviens sur l'incident d'hier. J'apprends que la population, permettez-moi pour la tautologie, la population s'est appris à la MONUSCO tout simplement. Quand on est venu récupérer la dépouille du casque bleu décédé, malheureusement, jusque-là, on est en train d'esquiver la question par rapport au bilan humain, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est sûr sur le terrain est que la population s'est appris à la MONUSCO pour avoir laissé le corps de l'enfant sur les lieux, l'enfant qui était décédé. Alors, ça en est suivi d'autres échauffourées jusqu'à ce qu'à présent, nous apprenons qu'on a tiré sur un autre jeune dont la jambe a été touché. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas parler en profondeur. J'aimerais avoir un peu d'explication par rapport à ça, cette méfiance qui se crée maintenant à cause de cet incident entre la population et la MONUSCO.
Oui, merci. Donc, mon colonel, vous pouvez prendre cette question-là. Mais je rappelle encore aux collègues de Goma que nous sommes dans un échange où la confiance doit prévaloir et je pense que les déclarations qui sont faites au niveau de la MONUSCO sont quand même des déclarations vérifiées et vérifiables. Mais mon colonel, je pense que vous pouvez apporter beaucoup plus d'explications là-dessus parce que j'ai l'impression que les rumeurs sont persistantes.
Oui, je pense que l'information que vous avez reçue est complètement erronée. Donc, il n'y a eu aucun décès au niveau des casques bleus. Nous avons seulement 32 blessés, okay, qui sont présentement à l'hôpital. 5 cas sont considérés sérieux. Okay, et concernant les décès, il y a seulement un enfant qui est décédé à cause de l'explosion. Il n'y a aucun tir qui a eu lieu lors de l'événement, seulement la sécurité de la scène a été prise en charge par le bataillon indien, mais aucun tir a été effectué. On a eu une communication avec la police nationale congolaise sur les lieux aussi qui étaient présents et ont décidé de manière conjointe qu'ils prenaient le corps de l'enfant et qu'ils l'apportaient à l'hôpital congolais. Donc, par décision conjointe, la PNC a pris le corps de l'enfant et l'a transporté directement à l'hôpital. Donc, c'est pas nous, c'est pas la MONUSCO, c'est pas la force qui a décidé de garder le corps. On voulait collaborer avec la PNC et les représentants du gouvernement. Et c'est pour ceci que le représentant du gouvernement a pris le corps de l'enfant jusqu'à l'hôpital. Est-ce que ça répond à votre question?
Merci, mon colonel. Une deuxième question à Goma.
Merci. Je m'appelle Cosma Simonga Sikakola, journaliste scientifique. Ma question s'adresse à Florence. Madame Florence, je viens de faire un petit tour à travers quelques villes de la RDC. J'ai réalisé qu'il y a un nombre important des enfants de la vie qui malheureusement vivent dans des conditions inhumaines, qui sont devenus un danger pour les populations du pays. Et je me demande pourquoi vous, les agences des Nations Unies, vous ne prenez pas en charge ces enfants qui sont considérés comme une bombe à l'état de mort dans notre pays.
Oui, merci. Je vais déjà rappeler que la protection des populations et des enfants revient en premier lieu au gouvernement congolais. Cela dit, les Nations Unies ont des programmes d'assistance pour tous les enfants et aussi pour les enfants de la rue. Vous le savez, on a l'UNICEF qui est en première ligne pour essayer de faire respecter les droits des enfants. Et le droit des enfants, c'est surtout le droit de pouvoir vivre dans une famille et de ne pas être à la rue. Donc il y a un lobbying. D'ailleurs, le 20 novembre, on va fêter l'anniversaire de la Convention du droit des enfants. Donc, en termes de plaidoyer, nous sommes toujours présents afin que les droits des enfants soient respectés.
Florence, pour ces explications, donc je voudrais rappeler aux collègues de Beni, de Goma et de Kinshasa, et surtout ceux de Kinshasa, qu'il n'y a pas de conférence de presse parallèle. Donc, faites un peu moins de bruit ici à Kinshasa. Donc, nous prenons ici à Kinshasa deux questions. Une au fond là-bas, à Marley. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro. Parlez un peu plus fort.
Roger Marley Lukunga pour Le Paris. Une question qui demandera une réponse assez claire. Vous parvenez facilement à localiser géographiquement les sites d'existence des mouvements rebelles. Vous parlez des Mai Mai Kifuafua, Mai Mai Mazembe, Mai Mai Corps de Christ. Vous parvenez même à les localiser géographiquement. Cependant, vous ne parvenez pas à y accéder pour les démanteler. Comment expliquer ce paradoxe? Une connaissance des sites d'existence d'un mouvement et la difficulté de l'anéantir. J'adopte un argument ad hominem. Si moi je connais le site d'existence d'un mouvement, je peux facilement le mettre en difficulté. Cependant, tel n'est pas le cas pour vous. Comment expliquer ce paradoxe? Connaissance exacte du site d'existence d'un mouvement et difficulté de l'anéantir.
Oui, merci. Avant de référer cette question au colonel Pierre Huet, je voudrais juste apporter une précision. Parce que quand vous êtes vous, vous vous adressez à qui? À la MONUSCO ou au FRDC ou à la MONUSCO et au FRDC? Donc si vous adressez, vous dites à la MONUSCO, si vous adressez à la MONUSCO, je dois vous dire, mon cher ami, que vous avez tout faux. Parce que Florence vient de le dire. La responsabilité de la neutralisation des groupes armés, de la protection des populations civiles, de la défense de l'intégrité territoriale, mais de grâce, vous ne pouvez pas, ok, les référer à quelqu'un d'autre. Cette responsabilité incombe à l'armée congolaise. Et encore une fois, je vais revenir là-dessus. Il ne faut pas non plus ignorer ou faire abstraction des réalités du terrain. Je peux en parler en tant que par expérience. Je connais très bien le Congo pour être là depuis très longtemps. Mais ceci ne veut pas dire que les choses se passent comme si on roulait sur le boulevard du 30 juin. On vous a à plusieurs reprises ici expliqué la rigueur du relief, la rigueur du terrain, la difficulté du terrain. Je vous ai ici à plusieurs reprises aussi rappelé même comment, je prends le cas des ADF, comment ces braves soldats congolais ont péri, ont payé un lourd tribut pour éclater l'ADF en petites grosses pustules qui au départ étaient initialement constituées et secrets. Je vous ai expliqué comment est-ce que ces FRDC ont, à coup de machette, frayé des chemins dans la brousse pour porter à dos d'homme tous les gens qui avaient été initialement kidnappés par les ADF. Je vous ai dit, ça tournait autour de 800 à l'époque. Alors, donc, je veux dire tout simplement que ce n'est pas aussi simple. Je sais où tu as pris ton exemple bien précis, je sais où tu es, donc je peux venir te chercher. Non. La République démocratique du Congo est un pays continent, premièrement, avec tout ce qu'elle recèle comme potentiel, mais aussi en termes de différence dans la végétation. Vous avez des montagnes ici, etc. Donc, c'est pas aussi facile. Mais mon colonel, je vais pas monopoliser la parole, je vais vous laisser, vous qui êtes en charge des opérations de la force de la MONUSCO, peut-être expliciter. Encore une fois, si c'est au besoin, car la répétition est pédagogique. Vous avez la parole, mon colonel.
Merci beaucoup. Premièrement, je suis en complet désaccord avec la déclaration du journaliste. Je pense qu'on fait des opérations de manière quotidienne avec l'FRDC, qui a un impact sur le terrain. On opère main dans la main avec l'FRDC. Et je pense pas qu'il y a aucun groupe armé au sein du DRC, en tout cas depuis ma venue ici, qui se lève la main et qui donne leur endroit exact pour qu'on puisse aller les neutraliser. Donc, il y a un système d'intelligence. On doit être capable de retrouver cette information-là et de pouvoir baser nos opérations et planifier nos opérations avec l'intelligence qu'on a et qu'on reçoit de l'FRDC. L'exemple, je pense qu'on a payé assez cher lors de nos opérations dans le Triangle. On a eu plus de 120 blessés au niveau de la FRDC lors des combats contre l'ADF. Nous avons eu également 8 blessés au niveau de la MONUSCO. Donc c'est un exemple concret que nous avons, que nous mettons les choses en place et conduisons des opérations effectives contre les groupes armés. Un autre exemple concret est la FRDC, il y a quelques semaines, a été capable de capturer le chef de l'intelligence FDLR, donc encore un autre impact sur le terrain qui va nous donner des informations et l'intelligence nécessaire pour conduire d'autres opérations. Donc, je considère que la MONUSCO, avec l'FRDC, fait des progrès quotidiens envers la neutralisation des groupes armés et que nous travaillons main dans la main pour le même objectif et pour la protection des civils.
Merci. Oui, merci mon colonel pour tous ces éclairages. En d'autres termes, il faut reconnaître les efforts qui sont faits sur le terrain. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, aussi, il faut comprendre que beaucoup a été fait, mais aussi beaucoup reste à faire. Donc, je reste à Kinshasa pour prendre une dernière question en remerciant l'antenne de Radio Okapi qui va bientôt décrocher. Oui, donc une question. Symphorien, vous avez le micro, vous pouvez y aller.
Merci pour la parole, Symphorien Katumba. Pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à l'intention du porte-parole Félix Bass. Trois ans mourant, deux journalistes français, en plein exercice de leur fonction en qualité de quatrième pouvoir. Dans les cas d'espèce, les journalistes congolais ne sont pas aussi épargné, il semble, que la MONUSCO n'a jamais apporté assistance aux journalistes en cas d'arrestation ou de menace de tout genre. Qu'en dites-vous? Je vous remercie.
Oui, merci. Je vais inviter ma collègue Barbara Matasconi du Bureau des droits de l'homme. Mais avant même que je ne lui passe la parole, Barbara, vous pouvez venir. Avant même de lui passer la parole, je vais vous dire de manière très claire que je ne partage pas votre point de vue quand vous dites que la MONUSCO n'a jamais protégé ou cherché à protéger les journalistes. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Excusez-moi de vous le dire en direct, mais je passe la parole à Barbara pour nous apporter beaucoup plus d'éclairage.
Oui. Bonjour Félix, merci. C'est juste, je suis un peu étonnée de la méconnaissance de nos programmes. Peut-être on devrait faire un peu plus de PR sur le travail du BCNUDH et de la MONUSCO en général. Nous suivons de très près les cas d'arrestation. À ce moment, on a enregistré dans les derniers trois jours trois cas d'arrestation. L'arrestation d'une journaliste française hier à Goma. Et l'arrestation de deux autres journalistes congolais à Kolwezi avant-hier. Ce sont des cas qu'on suit de très près. L'arrestation, les procédures contre eux, et on intervient dans le cadre du plaidoyer auprès des autorités pour les faire relâcher et poursuivre les procédures contre eux. Au niveau local, on suit les arrestations. Au plaidoyer, au niveau central, ici, notre directeur, aussi bien qu'avec le management de la mission, soulève la question de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion et d'expression, avec les autorités au niveau central aussi. Au sein du BCNUDH, nous avons aussi un programme de protection dont les bénéficiaires principaux sont les journalistes, et les défenseurs des droits de l'homme. Donc c'est on a ce programme qui est très actif et plusieurs journalistes sont pris en charge au sein de ce programme.
Oui, merci. Peut-être que Florence, vous avez quelque chose à rajouter sur cette question.
Oui, je voudrais ajouter que effectivement la question étonne car non seulement la MONUSCO et les Nations Unies prennent à cœur la protection des journalistes, mais également de nombreux programmes d'assistance aux médias, dont vous êtes nombreux ici et à Goma à avoir bénéficié ces dernières années, ont été développés et sont développés par le système des Nations Unies dans différents domaines afin de renforcer les capacités.
Oui, donc merci. Donc nous vous prenons une dernière question à Kinshasa. Une dernière donnée à Venant vous dit ça.
Merci, c'est Venant vous dit ça. Permettez que je m'adresse à Florence. Florence, oui, pour être bien vue. Florence, dernièrement, il y a eu célébration du 71e anniversaire des Nations Unies. Et au Bénin, c'était le développement des développements. Objectif développement durable, horizon 2030. Maintenant, la question que je me pose, parce que je l'ai dit en connaissance de cause, le PNUD est une agence qui s'occupe spécialement du développement. Quel est l'apport alors du PNUD à la réalisation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable horizon 2030 pour la République démocratique du Congo? Uniquement les quelques renforcements des capacités des ateliers, c'est avec ça qu'on pourra atteindre ces objectifs. Merci à vous.
Alors, tout d'abord, le plan 2030 de développement durable, donc qui a été adopté par les États membres des Nations Unies en septembre 2015, est un plan qui engage tout le monde et qui, en premier lieu, doit être mis en œuvre par les gouvernements. C'est ainsi que votre gouvernement est en train de développer un plan de développement, le PNSD, le plan programme national de stratégie de développement. Et dans ce plan, les objectifs de développement durable sont intégrés. Donc, la mise en œuvre des ODD est l'affaire, en premier lieu, des États. les Nations Unies, et ça c'est la feuille de route des Nations Unies dans ce pays pour les années à venir, nous sommes là pour accompagner la réalisation de ces objectifs de développement durable. Alors vous l'avez cité, il y a le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, mais pas que, parce que comme vous le savez, sur les 17 objectifs de développement durable, il y a la lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé, il y a aussi la participation, la fin, un monde de justice, de paix, etc. Donc nous sommes justement actuellement en train de travailler ici aux Nations Unies et avec le gouvernement afin d'intégrer tout cela et afin de travailler ensemble. Donc les objectifs de développement durable n'appartiennent à personne, ils appartiennent à tout le monde. Tout le monde est responsable pour la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable.
Merci Florence sur ces derniers appels de responsabilité. Merci à tous nos collègues d'avoir été en notre compagnie. À mercredi prochain.